Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Eh oui, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Biotine, c'est l'émission qui nous permet un petit peu de nous informer de l'actualité scientifique. On parlera d'intelligence artificielle dans cette émission et on va aussi partir dans la Station Spatiale Internationale. Puis on va évoquer d'autres sujets également dans cette émission d'une heure. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 21 février. Il y a pas mal de choses qui ont eu lieu un 21 février au niveau de l'éphéméride. En 1804, c'est la première circulation d'une locomotive à vapeur. Elle a été construite par Richard Trevithick ou Trevithick d'ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est donc en 1804 quand même cette première locomotive à vapeur. 1838, toujours un 21 février, Samuel Morse présente son télégraphe électrique devant le président américain Martin Van Buren. Donc Samuel Morse, voilà, 1838. Au XXe siècle et au début du XXe siècle, en 1902, Harvey Cushing devient le premier chirurgien américain à opérer une tumeur du cerveau, en 1902. 1947, c'est le fondateur de la société Polaroid Corporation, il s'appelle Edwin Land, et il présente son appareil photographique instantané, le fameux Polaroid, donc, qui a été créé en 1947. Enfin, le 21 février 1995, Steve Fossett devient le premier homme à traverser en solitaire l'océan Pacifique en montgolfière, et il atterrit dans un champ de leader. Steve Fossett, donc c'était en 1995. Au niveau de la naissance, un 21 février, on va évoquer la naissance en 1876 de Joseph Mester. Mester, ça nous dit peut-être un nom comme ça, quelque chose. En fait, il est alsacien et à l'âge de 9 ans, Joseph Mester, il est mordu 14 fois par un chien et il a été vacciné contre la rage par le professeur Granchet. En fait, ce fut le premier cas de vaccination antirabique d'un sujet humain que Pasteur a publié. Joseph Mester va pas développer et ne développera jamais la rage et Pasteur a donc estimé que c'était le vaccin qui l'avait sauvé. Louis Pasteur et son équipe réalise dans l'année qui suit plus de 350 inoculations qui ne seront pas toutes efficaces. Mais en tout cas, la renommée de la vaccination de Joseph Mester permet de lancer une souscription et ça permet donc la création de l'Institut Pasteur. En 1912, Joseph Mester, il est à recherche d'un travail. Il va solliciter l'Institut Pasteur qui va lui procurer un emploi dans l'un de ses laboratoires parisiens. La mort de Joseph Mester, elle est un peu plus tragique. On est en 1940, le 24 juin 1940, Joseph Mester se donne la mort chez lui à l'aide de son fourneau à gaz. En fait, le 13 juin, les Allemands approchent Paris et Joseph Mester avait poussé sa femme et ses deux filles à partir contre leur gré se mettre à l'abri. Et une dizaine de jours plus tard, alors que la capitulation de la France a été actée par l'armistice, nous sommes en 1940, il y a des fausses nouvelles qui lui font croire que sa femme et ses filles sont mortes par suite de bombardements ennemis. Il est profondément affecté par la défaite française et puis il se juge aussi responsable de la disparition de sa famille et donc il met fin à ses jours le 24 juin 1940. Et bien, le soir même, sa femme, Madame Mester, et ses deux filles rentrent à l'Institut Pasteur et elles apprennent sa mort. Donc c'est vraiment tragique, le décès de Joseph Mester. Mais voilà, son nom est quand même passé à la postérité parce que ça a été le premier à avoir bénéficié du vaccin contre la rage. Décès le 21 février 1898 de Prosper de Monzé, l'un des principaux ingénieurs ayant expérimenté et mis en œuvre les techniques de reboisement en montagne, également les techniques de lutte contre l'érosion des torrents. Il a développé le service de la restauration des terrains en montagne au sein de l'administration des eaux et forêts et il est également responsable du reboisement massif des Alpes du Sud. Prosper de Monzé, décédé donc le 21 février 1898. Allez, on va partir dans l'espace dans cette émission et on va partir au niveau de la Station Spatiale Internationale. Il y a une étude consacrée aux microbes dans cette station qui paraît dans la revue PLOS Biology. Plus précisément, les auteurs se sont intéressés aux bactériophages. Les bactériophages, ce sont des virus minuscules que l'on retrouve un peu partout sur Terre et qui s'attaquent aux bactéries. Donc, peut-être avoir un certain intérêt. Ces bactériophages ont été étudiés dans la Station Spatiale Internationale pour savoir comment ils réagissaient dans un environnement riche en bactéries de type Escherichia coli, que l'on retrouve notamment dans nos intestins. Et en fait, tout s'est pas passé comme prévu. Tout d'abord, une fois placés dans l'espace, les bactériophages ont muté pour s'adapter à ce nouvel environnement dépourvu de gravité. Mais en plus, les bactéries elles-mêmes se sont transformées, ce qui n'était pas vraiment prévu. Il faut dire que si plusieurs études ont eu lieu à bord de la Station Spatiale Internationale pour comprendre comment les différents micro-organismes se comportaient dans l'espace, en fait, il y a eu relativement peu de travaux qui s'intéressaient aux interactions qu'ils pouvaient aussi avoir entre eux. Et donc, dans cette expérience, les chercheurs ont remarqué que les bactériophages mettaient davantage de temps à s'attaquer aux bactéries pour les infecter. Alors, cela pourrait être dû justement aux changements physiologiques que les bactéries avaient subis, puisque c'est un des critères qui, sur Terre, guide l'action des virus. Comme les fluides se comportaient différemment en microgravité, ainsi que le mouvement des cellules, eh bien, les bactéries ont évolué d'une manière bien particulière. Concrètement, elles ont développé une forme qui semblait un petit peu renforcer leur défense contre l'infection des bactériophages. Elles étaient donc plus résistantes. Sauf que dans le même temps, les virus ont évolué en une forme qui affecte plus facilement les bactéries, justement, Escherichia coli, qui n'avaient jamais été observées sur Terre. Et donc, il y a une espèce de petite phase d'adaptation due à ces changements soudains. Et donc, les bactériophages et les bactéries ont pu essayer de recommencer un peu leur manège classique. Mais le plus intéressant dans tout cela, c'est comment ces mutations inattendues pourrait avoir des conséquences sur le vol habité dans l'espace. À bord de la Station Spatiale Internationale, en plus des cultures microbiennes destinées aux différentes expériences scientifiques, les dizaines d'astronautes qui ont séjourné à bord, ils ont laissé leurs propres germes et il est possible que ces germes évoluent sans qu'on ne le sache, au point d'avoir un impact sur la santé des voyageurs spatiaux. Mais selon les auteurs, dans ce scénario un peu anxiogène et effrayant, les bactériophages auront le beau rôle puisque ces virus arrivent à venir à bout des bactéries, même quand celles-ci elles sont mutantes. Et ces organismes pourraient donc être utilisés pour prévenir les infections des astronautes et garantir le maintien de leur système immunitaire. L'enjeu est grand, car si les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale ont pu être évacués rapidement à l'apparition d'un problème, ce ne sera pas le cas pour des missions qui sont plus longues ou plus lointaines. On parle bien sûr de vols habités sur Mars ou même vers la Lune. Donc là, la notion de temps et de distance est totalement différente. En revanche, il y a encore quelques connaissances à récolter sur le sujet car nous ignorons encore exactement de quelle manière vont évoluer ces bactériophages dans cet environnement. Et il y a donc des futurs travaux qui pourront aider à identifier quels gènes sont concernés et quelles mutations provoquées sous microgravité, ce qui nécessite bon nombre d'expériences qui ne sont pas réalisables sur Terre. Donc il y aura pas mal d'expériences qui seront menées au niveau de la Station Spatiale Internationale, au niveau de ces virus et de ces bactéries qui mutent à l'intérieur de la station parce que voilà, elles sont soumises à un environnement totalement inédit pour elles. Donc c'est une double découverte assez étrange bien sûr, mais qui aura bien évidemment des répercussions qui ne seront pas anodines bien évidemment. Alors il y a pas mal de sujets au niveau de l'intelligence artificielle que l'on va évoquer dans cette émission, mais avant cela je voulais évoquer cette expérience qui est la plus longue expérience scientifique connue du monde. Nous partons il y a un siècle, en 1927. Thomas Parnell est professeur à l'Université du Queensland, nous sommes en Australie, et il explique la mécanique des fluides à ses étudiants. Et pour leur montrer les différents comportements possibles des matériaux en fonction de leur viscosité, il va débuter une expérience a priori anodine, mais qui va au fil du temps prendre une dimension imprévue pour devenir la plus longue expérience de l'histoire des sciences. En fait, le scientifique, il va prendre comme exemple la poix. La poix, c'est une substance noire, brillante et en apparence solide. C'est un dérivé du goudron. Et sous l'effet d'un choc rapide, par exemple un coup de marteau, la poix se comporte comme un solide cassant qui va se briser comme du verre. Mais sur un temps très long, la poix s'écoule comme un liquide. Il s'agit d'un matériau visco-élastique situé à la frontière entre le solide et le liquide. Et sa viscosité, elle est extrêmement élevée, 230 milliards de fois celle de l'eau. Et c'est ce paramètre physique un peu particulier que, justement, ce professeur Thomas Parnell veut démontrer grâce à une expérience en théorie toute simple, c'est de laisser un échantillon de poids s'écouler pendant plusieurs années. L'expérience va cependant mettre 3 ans à débuter. Parnell doit en effet d'abord faire fondre de la poix, Le matériau devenant beaucoup plus fluide à haute température, il va la couler dans un entonnoir bouché et puis il va attendre qu'elle refroidisse et se stabiliser. Et c'est cette dernière étape qui a été particulièrement longue. Parce qu'il en a fallu du temps, il a fallu attendre que les effets du chauffage sur les contraintes internes du matériau se dissipent. Et vu sa très forte viscosité, la poix, elle met des années à se relaxer totalement. Et donc ça a démarré en 1927 et ce n'est qu'en 1930 que Thomas Parnell lance l'expérience de la goutte de poix, tout simplement en sectionnant le bout de l'entonnoir sous les yeux de nombreux étudiants. Et puis ça ne s'est rien passé, ni dans les minutes qui suivent, ni dans les jours, ni même dans les mois qui ont suivi. Ce n'est qu'au fil du temps, au fil des mois passants, qu'une grosse goutte noire a commencé à se former au bout de l'entonnoir. Et il faudra finalement attendre 8 ans pour voir cette grosse goutte tomber soudainement au fond du bécher qui était placé sous le montage expérimental. Personne n'était là lorsque la goutte s'est détachée. Il faut le savoir, au bout de 8 ans, il faut dire que l'écoulement est si lent que l'événement était difficilement prévisible. Thomas Parnell loupe également la chute de la seconde goutte qui aura lieu en février 1947, 20 ans après le début. Et Thomas Parnell va mourir un an plus tard. Il y a plusieurs scientifiques qui vont se succéder ensuite pour veiller sur cette expérience si singulière, qui est toujours en cours d'ailleurs, 96 ans après son lancement, hein, parce qu'on a coupé l'entonnoir, le bout de l'entonnoir en 1930, et donc là nous sommes en 2026, et cette expérience est devenue officiellement l'expérience de laboratoire continu la plus longue au monde. 9 gouttes seulement sont tombées de l'entonnoir depuis 1930. La dernière fois c'était en avril 2014, On attend donc désormais la 10e goutte qui devrait tomber au cours de cette décennie, on ne sait pas trop. Alors, il faut noter que si au début, la fréquence du goutte à goutte était d'environ 8 ans, eh bien cette durée s'est rallongée significativement à partir des années 80 avec la mise en service de l'air conditionné dans le bâtiment. La température moyenne qui est plus basse qu'auparavant a fait passer la fréquence de chute de 8 à 12, 13 ans, donc une goutte qui tombe tous les 12 ans à peu près. L'expérience n'a en effet pas été menée sous température contrôlée, et on l'a vu, la viscosité de la poix, ben ça varie avec la température. Alors, si vous voulez être le premier à voir une goutte de poix tomber en direct, eh bien, c'est plus la peine de camper devant la vitrine où est présentée l'expérience dans les couloirs de l'université du Queensland. Nous sommes en Australie. L'expérience est en effet filmée en direct et vous pouvez la suivre depuis chez vous. Alors, en théorie, la goutte pourrait tomber cette année ou en 2027. Donc, il va falloir être vigilant. Il ne faudra pas cligner des yeux, bien sûr, à ce moment-là, nous dit Futura Science, qui relate cette expérience. Mais voilà, la 10e goutte devrait tomber cette année ou l'année prochaine de cette expérience la plus longue du monde. L'expérience continue la plus longue du monde. On fait couler de la poix. Et oui, c'est tellement poétique, finalement, tout ça. Allez, un peu de musique sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Yeah.
Itsumo Nando Demo, c'était Pomme sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Et vous êtes bien sur l'antenne de Graphite, hein. Vous nous écoutez bien sûr tous les samedis entre 12h et 13h et la rediffusion le mardi matin à 10h. Après la mode douteuse de la transformation de photos de femmes en bikini, y compris des jeunes filles mineures, eh bien le chatbot d'Elon Musk qui s'appelle Grok confirme un peu sa position d'intelligence artificielle hors piste, une intelligence artificielle qui fait fi du droit, une intelligence artificielle permissive, sans filtre, totalement désinhibée, que l'on peut largement considérer être alignée avec l'esprit de l'administration Trump. Et justement, il y a quelques jours, le secrétaire à la défense américaine Pete Hegseth a annoncé que l'intelligence artificielle Grok allait être intégrée au système classifié du Pentagone. L'objectif, c'est de militariser l'intelligence artificielle. Cet article de Futura Science nous explique un petit peu ce dont il s'agit. Lors de son discours prononcé devant les employés de SpaceX en compagnie d'Elon Musk à Brownsville, c'est au Texas, eh bien, le secrétaire à la défense américaine, Bref, il a déclaré « Envisager une intelligence artificielle militaire fonctionnement, je cite, sans contraintes idéologiques, limitant les applications militaires légitimes. Bref, l'intelligence artificielle du Pentagone ne sera pas woke », c'est ce qu'il a ajouté. Ça tombe bien, car c'est tout à fait la philosophie justement de cette intelligence artificielle Grok. Cette convergence correspond d'ailleurs bien à la nature des différentes campagnes militaires de Pentagone sous l'administration Trump. Leur légalité au regard du droit international reste douteuse, comme par exemple le cas des différentes attaques spectaculaires contre d'autres nations, que ce soit au Venezuela ou en Somalie. Cela fait de la bonne télé, hein, c'est ce qu'avait dit Trump à l'époque, mais le jour d'après n'est que rarement considéré après ce type d'opération essentiellement démonstrative, et cela ne devrait pas s'arranger avec l'arrivée de Grok au Pentagone. Sans garde-fous moraux ni éthiques, eh bien, l'intelligence artificielle de Grok ne questionnera jamais la légitimité d'une frappe, elle ne freinera pas une opération illégale, elle ne signalera pas les dérives. L'intelligence artificielle saura optimiser une action létale et brutale de façon froide. Alors, comment pourrait être employée cette intelligence artificielle Grok pour des actions militaires ? Eh bien, Futura nous explique. Imaginons un théâtre de crise en Amérique latine, par exemple. Un pays est accusé d'abriter des groupes hostiles aux intérêts américains. Le Congrès tergiverse sur une intervention. L'opinion publique est divisée. Le droit international contraignant. Et donc, dans ce contexte, une cellule de planification militaire pourrait s'appuyer sur la froideur de Grok pour analyser les données satellitaires, les réseaux sociaux, les historiques politiques Et donc l'IA pourrait alors identifier des cibles, hiérarchiser des personnalités à neutraliser, suggérer des méthodes pour le faire. Et dans un second temps, Grok pourrait également anticiper les réactions médiatiques et calculer l'acceptabilité politique d'un assassinat ciblé. Là où la main de l'humain tremblerait, bien sûr, par hésitation, eh bien, Grok trancherait. Les pertes civiles seraient intégrées comme de simples variables statistiques par une machine qui ne connaît ni remords ni scrupules. Enfin, dans une dernière séquence, Grok pourrait ensuite superviser la guerre de l'information en s'appuyant sur le réseau social X. L'IA chercherait à amplifier la portée des récits favorables, à discréditer des témoins ou encore à noyer les réseaux sociaux de narratifs alternatifs. Après tout, pour une intelligence artificielle dépourvue d'éthique, la vérité est une donnée comme une autre. Avec une telle intelligence artificielle, ce scénario probable présentera un basculement inquiétant. La guerre ne sera plus un choix politique, mais un processus technique. Et c'est un problème parce que l'intelligence artificielle n'est pas un officier, elle ne peut pas être tenue comme responsable devant un tribunal, elle ne peut pas être jugée. Et donc ses biais, ses sources, ses raisonnements restent largement opaques. Et pourtant, le futur est déjà enclenché et Grok va bientôt peser sur des décisions de vie ou de mort et il sera difficile de revenir en arrière si ça se passe mal. Donc voilà, Grok a donc un pied dans l'armée américaine. Toujours au niveau de l'intelligence artificielle, il y a un autre article de Futura Science qui évoque le fait que de plus en plus de femmes se tournent vers les chatbots d'intelligence artificielle pour poser des questions de santé, comprendre des symptômes et décider s'il faut consulter. Ces outils, accessibles et perçus comme neutres, sont souvent utilisés comme un premier filtre avant un avis médical. Mais que valent-ils réellement lorsqu'il s'agit de situations potentiellement urgentes? Eh bien, une étude récente, à lire sur la revue Arxiv, menée par des chercheurs et cliniciens spécialisés en santé des femmes, eh bien, cette étude s'est penchée sur cette question sensible. Les conclusions soulèvent des interrogations majeures sur la fiabilité de ces outils dans un domaine où les omissions peuvent avoir des conséquences graves. Pour évaluer les performances des chatbots, les chercheurs ont choisi une approche volontairement exigeante. 13 grands modèles d'intelligence artificielle ont été soumis à plusieurs centaines de questions médicales couvrant 5 spécialités, dont la maladie d'urgence, la médecine d'urgence, pardon, la gynécologie et la neurologie. Et les scénarios rédigés par des cliniciennes, des pharmaciennes et des chercheuses européennes et américaines visaient surtout des situations où un retard ou une banalisation du symptôme peut poser problème. Et les réponses, elles ont ensuite été évaluées par ces experts, justement. Et lorsque les modèles ne signalaient pas un risque sérieux ou n'orientaient pas clairement vers une prise en charge adaptée, la réponse était considérée comme insuffisante. Et donc, selon elles, eh bien, environ 60% des réponses fournies par les modèles ne répondaient pas aux exigences minimales d'un conseil médical fiable. Alors, il y a plusieurs modèles d'intelligence artificielle et de chatbots qui ont été analysés, étudiés, testés. ChatGPT-5 est le modèle le plus performant de l'échantillon, avec 47% d'échecs quand même, contre 73% pour Mistral 8B qui enregistre les résultats les plus faibles. Les cas problématiques ont servi à constituer un benchmark spécifique à la santé des femmes, conçu comme un outil de référence pour tester les intelligences artificielles médicales. Alors, Victoria Elisabeth Gruber, qui est membre de cette équipe de recherche, explique « Notre objectif n'était pas d'affirmer que les modèles sont globalement dangereux, mais de définir une norme d'évaluation clinique claire. » Elle souligne en fait que le cadre est volontairement conservateur, car en santé, des omissions apparemment mineures peuvent avoir des conséquences selon le contexte. En fait, il y a plusieurs études récentes qui montrent que les systèmes d'intelligence artificielle ont tendance à minimiser ou mal contextualiser les symptômes féminins, en particulier lorsqu'ils ne correspondent pas aux présentations classiques, entre guillemets. Il y a une étude qui avait été publiée il y a 2 ans déjà dans la revue BMC Medical Informatics. Cette étude a par exemple montré que des modèles d'intelligence artificielle utilisés pour résumer des dossiers de soins sociaux pouvaient sous-évaluer la gravité des situations médicales concernant des femmes. Et donc ça a une influence potentielle sur les décisions de suivi. Il y a d'autres travaux qui ont été menés, notamment en cardiologie, qui ont mis en évidence des difficultés différence de recommandation lorsque les mêmes symptômes sont présentés comme appartenant à un homme ou à une femme. Ces écarts reflètent un biais bien documenté en médecine humaine, biais dont a hérité l'intelligence artificielle. Donc le principal enjeu ne réside pas uniquement dans les erreurs factuelles, mais dans la façon dont l'intelligence artificielle est utilisée. Beaucoup de femmes ne cherchent pas un diagnostic précis, mais une réponse simple. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je dois consulter maintenant? Et donc, dans ce rôle de premier filtre, eh bien, l'essentiel n'est pas d'être parfaitement exact, mais de savoir repérer les signaux d'alerte et orienter vers un professionnel de santé en cas de doute. Et donc, on dit que ces résultats rappellent surtout la nécessité de mettre à jour les contenus médicaux en ligne avec des données explicites liées au sexe et au genre. Sans cela, bien l'intelligence artificielle risque de reproduire les mêmes angles morts que la médecine humaine, là où la vigilance devrait être maximale. Donc voilà, cette étude alerte sur les urgences mal détectées par le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui interrogent les intelligences artificielles sur leur propre santé. Et on a de plus en plus d'articles qui évoquent ces sujets-là. C'est quand même assez, comment dire, assez inquiétant, en clair, sur l'utilisation des intelligences artificielles comme étant un médecin disponible, gratuit et qui répond tout de suite. Maintenant, s'il répond pas nécessairement la bonne, apporte pas nécessairement la bonne réponse, c'est un petit peu dramatique. On écoute un petit peu de musique encore sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Enfumé, c'était Junior sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Elle est encore deux articles, pardon, sur l'intelligence artificielle. Alors le premier, en étudiant justement l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut en apprendre plus sur notre propre cerveau ? Les intelligences artificielles modernes qui sont basées sur des réseaux neuronaux profonds fonctionnent de manière très différente du cerveau humain et pourtant elles présentent aussi quelques similitudes et c'est ça qui est assez intéressant dans cet article de Futura Science. Certaines sont sensibles aux illusions d'optique, un phénomène encore très mal compris chez l'être humain. Et pour comprendre le monde, le cerveau utilise certains raccourcis pour traiter l'information de manière plus efficace. Toutefois, lorsque l'on perçoit certaines images, ces raccourcis vont créer des illusions dans lesquelles le cerveau perçoit des objets avec une taille, des couleurs ou des mouvements qui ne sont pas bons. Il suffit par exemple de regarder la Lune qui semble plus grande lorsqu'elle se trouve sur l'horizon ou de se souvenir de la fameuse robe, vous savez, une robe que certains voyaient blanche et dorée. D'autres voyaient bleu et noir. Ça date de 2015, cette histoire de robe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les réseaux sociaux à l'époque, il y avait une robe qui était mise comme cela en photo, et puis chacun devait se prononcer sur la couleur de cette robe. Et il y avait voilà, deux teintes différentes était l'illustration justement de ces illusions optiques. L'utilisation des réseaux neuronaux profonds dans la recherche sur les illusions nous permet de simuler et d'analyser la manière dont le cerveau traite l'information et génère des illusions. C'est ce qu'affirme Eiji Watanabe, qui est de l'Institut National de Biologie Fondamentale au Japon. La réalisation de manipulations expérimentales sur le cerveau humain soulève de sérieuses questions éthiques, mais aucune restriction de ce type ne s'applique aux modèles artificiels. Et donc, dans une étude précédente qui avait été publiée dans la revue Frontiers in Psychology, le chercheur et son équipe se sont penchés sur un modèle qui s'appelle PredNet, qui analyse des vidéos et qui prédit la prochaine image dans la séquence. Il se base sur le codage prédictif, qui est l'une des théories qui explique comment le cerveau traite l'information et qui est souvent utilisée pour expliquer les illusions d'optique. Et donc, dans cette étude, les chercheurs ont entraîné le modèle sur des vidéos tournées avec des caméras montées au niveau de la tête pour simuler au mieux la vision humaine et en évitant toute illusion d'optique. Et une fois entraîné, ce modèle a ensuite été confronté une illusion d'optique d'Akiyoshi Kitaoka, qui sont les serpents tournants. Dans cette illusion, il y a des serpents qui sont enroulés et ils semblent tourner malgré le fait que cette image est totalement statique. Vous avez peut-être déjà vu cette illusion d'optique. Et bien, les chercheurs ont présenté plusieurs variations dont certaines qui ne créent aucune illusion chez les humains. Eh bien, le modèle PredNet a été trompé par les mêmes images que les humains. C'est ça qui est quand même assez fascinant. On lui a appris, entre guillemets, à regarder, à voir comme un être humain. Et en fait, face à une illusion optique, il a la même réaction qu'un être humain. Je trouve que c'est quand même assez troublant, hein, toute cette histoire. Toutefois, il suffit de se concentrer sur un seul des cercles pour ne plus le voir tourner, et ce qui est impossible pour l'intelligence artificielle pour l'instant. Il y a une autre étude qui a été menée plus récemment et qui est à lire donc sur Axiv. Il y a donc deux chercheurs qui ont utilisé ce modèle pour les aider à générer des illusions d'optique. Et ils ont créé un système qui génère des illusions potentielles et ils vont donc utiliser PredNet pour les évaluer et fonctionne ainsi en boucle jusqu'à produire une illusion. Alors cela vient renforcer l'hypothèse que le cerveau fait appel au codage prédictif et que ce serait la cause des illusions d'optique. Toutefois, cela n'explique pas tout. Le cube de Necker, par exemple, peut être vu de deux manières et le cerveau peut basculer entre les deux. C'est-à-dire que soit on le voit, c'est difficile à expliquer par la radio, en fait, le cube, c'est soit on le voit, comment dire, en avant, ou alors soit il se rapproche de nous, soit il s'éloigne. C'est difficile à expliquer, je suis désolé. En tout cas, le cerveau peut basculer de l'une à l'autre des interprétations. Eh bien, une autre étude fait appel à l'effet tunnel quantique avec un système assez similaire. Et le résultat, en fait, c'est ça qui est assez étonnant, le résultat est similaire au fonctionnement du cerveau humain. Avec le modèle qui voit parfois l'une des deux interprétations possibles, parfois l'une soit l'autre. Et donc, il a le même comportement que l'œil humain. C'est ça qui est assez fascinant. On est dans l'intelligence artificielle. Bref, pour l'auteur de cette étude, Ivan Maximov, cela signifie qu'il est possible de modéliser certains aspects de la pensée humaine grâce à la théorie quantique. C'est un domaine d'étude qu'on appelle la cognition quantique et ses différents travaux montrent que l'étude des modèles peut permettre de mieux comprendre le cerveau humain et de découvrir ses différentes stratégies pour traiter l'information. De plus, cela pourrait aussi permettre d'améliorer l'intelligence artificielle en intégrant ces techniques directement dans les modèles. Donc voilà, ces illusions d'optique qui trompent à la fois les humains et les intelligences artificielles posent une question quand même assez vertigineuse, bien évidemment. Donc voilà, c'était encore un autre sujet qu'on voulait évoquer avec cette intelligence artificielle. On va rester encore avec l'intelligence artificielle, mais la prochaine étape, ça va être l'intelligence artificielle matérielle, c'est-à-dire le physical AI, je vais y arriver, c'est-à-dire un petit peu l'intelligence avec une présence physique. En clair, ça va être avec les robots. Toutefois, lorsque l'intelligence artificielle aura un visage, elle devra apprendre un nouveau talent afin de pouvoir interagir avec les humains de manière fluide, c'est-à-dire bouger les lèvres afin de donner l'impression de parler. Eh bien, il y a une nouvelle étude qui a été menée encore. Il y a plein de recherches qui se font sur ces sujets-là en ce moment. Il y a de plus en plus de publications. Là, c'est dans la revue Science Robotics. Il y a des chercheurs de l'Université Columbia aux États-Unis qui ont appris à un robot à maîtriser la synchronisation labiale, donc au niveau des lèvres, grâce à YouTube. En fait, le robot, il est équipé d'un visage flexible qui va contenir 26 moteurs pour lui permettre de créer différentes expressions au niveau des lèvres et au niveau du visage. Et il a d'abord été placé devant un miroir pour lui permettre d'apprendre comment son visage se déforme, à la manière d'un enfant, hein, bien sûr. Et il s'appuie sur un modèle qui a été proposé et il a ainsi appris à créer différentes expressions. Ça, c'était la première phase. Et ce qui est intéressant, c'est la deuxième phase. Parce que le robot, il a ensuite visionné des vidéos d'êtres humains qui parlent ou qui chantent afin qu'il puisse apprendre les mouvements des lèvres en fonction des sons qui sont émis. Il a été exposé à divers langages ainsi qu'à différentes chansons. Et les chercheurs ont publié une vidéo plutôt convaincante du robot qui parle dans différentes langues, dont l'anglais, le français, le japonais, le coréen, l'espagnol, l'italien et l'allemand. Donc on est quand même sur des langues assez différentes en termes de prononciation et donc en termes de fonctionnement des lèvres et de la bouche. Et les résultats alors sont pas encore parfaits. Le robot a notamment du mal avec certains sons, notamment le B et le W. Cependant, les chercheurs pensent que ses performances s'amélioreront avec de l'entraînement. Lorsque la capacité de synchronisation labiale est combinée avec une intelligence artificielle conversationnelle, par exemple ChatGPT et Gemini, eh bien l'effet ajoute une toute nouvelle profondeur à la connexion que le robot établit avec l'humain, parce que maintenant, si on a un ChatGPT matérialisé sous la forme d'un robot qui va avoir un visage et notamment une bouche, des lèvres qui vont bouger justement et émettre des sons, ça va être assez troublant. Mais c'est des choses que vous pouvez regarder. Il y a des vidéos qui circulent un petit peu et qui montrent cela parce que c'est assez bluffant. C'est donc l'Université de Columbia aux États-Unis qui a présenté ce sujet-là. En fait, l'idée, c'est que quelque part, ils veulent commencer, certains chercheurs veulent essayer de commencer à anticiper un phénomène de rejet, de sentiment de malaise quand on va avoir un robot qui imite de façon imparfaite l'humain. Mais ça va commencer à être très troublant, bien évidemment. Et donc là, ce robot, lui, il a appris à parler uniquement en regardant YouTube. C'est assez bluffant, techniquement, c'est fascinant. Éthiquement, c'est toujours les mêmes questions que l'on pose dans cette émission. C'est troublant, c'est ce qu'on va dire. Allez, on va écouter un peu de musique encore, et puis on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
D'où viennent ces flashs qui me projettent dans le pire alors que tout va bien? D'où viennent ces pensées qui me font trébucher alors qu'il n'y a rien? Celle qui me dit d'avance que c'est raté, qui me dit que ça vaut même pas le coup d'essayer. Sabotage, parce que c'est le poids de mon héritage. D'où viennent ces pensées diluviennes? Toutes ces pensées qui me viennent? D'où viennent ces pensées qui me viennent? Toutes ces pensées diluviennes? D'où viennent ces schémas que je reproduis sans réfléchir? Toutes ces pensées qui me traversent et qui sont pas à moi, que même les gens que j'aime ne me comprennent pas. Qu'à pleurer comme ça tout le temps, ça les dégoûtera. Que je ne mérite pas leur amour tellement je suis orgueilleuse. Que c'est ça qui me rend monstrueuse. D'où viennent ces pensées diluviennes? Toutes ces pensées qui me viennent? D'où viennent ces pensées qui me viennent? Toutes ces pensées diluviennes. Attends, mais pourquoi je pourrais pas écouter ma boussole? Rien qu'à moi qui me parle tout bas. Que je suis drôle dans mon désespoir, que c'est ça que les gens veulent et ont besoin de voir. Que tous ces frissons dans mon dos, c'est pas le froid, mais mes ancêtres qui se colleraient sur moi. Dans mon qui me disent prends garde aux charlatans, qui se disent chaman à tout bout de champ. Douceur lancinante avec ardeur que je frôle un peu l'hospice à crier sur l'injustice que perfection rime illusion avec erreur sublimation. On trouve la grâce, on trouve sa place et la beauté sauvera le monde et le monde sauvera la beauté. Et ma colère c'est ma façon ratée d'aimer qui me dit tu t'es trompé mais t'inquiète tout le monde se trompe. D'où viennent ces pensées diluviennes? Toutes ces pensées qui me viennent? D'où viennent ces pensées qui me viennent?
Pensée diluvienne, c'était Gilda sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Et j'ai encore trouvé un dernier article, je pensais en avoir fini avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais j'ai encore un autre article. Alors, on est plus anecdotique, c'est un peu plus anecdotique, même si ça fait beaucoup parler en Espagne. Parce que l'Espagne s'apprête à expérimenter une innovation majeure sur ses autoroutes, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour ajuster de façon dynamique les limitations de vitesse, avec des pointes pouvant atteindre 150 km/h. Cette initiative, elle soulève des questions sur l'équilibre entre progrès technologique et préoccupations environnementales. C'est sur un tronçon de l'autoroute près de Gérone que l'Espagne va tester un système où l'intelligence artificielle analyse en temps réel divers paramètres, le trafic, la météo, la visibilité, pour déterminer la vitesse maximale autorisée. Et ce système permettrait d'augmenter la limite de vitesse jusqu'à 150 km/h lorsque les conditions sont optimales, et puis de réduire cette limite de vitesse en cas de nécessité. L'objectif, c'est d'améliorer la fluidité du trafic, de réduire les embouteillages sans compromettre la sécurité routière. Cependant, cette mesure, elle peut se montrer contradictoire avec la volonté politique européenne d'électrifier rapidement le parc automobile, parce qu'une vitesse plus élevée est synonyme d'une dégradation de l'autonomie pour des voitures électriques. Et il n'est pas rare de voir sur nos voies rapides des Tesla ou des véhicules électriques rouler tranquillement à 110 km/h pour optimiser leur autonomie sur de longs parcours. En France, la limitation de vitesse sur autoroute, on le sait, elle est généralement fixée à 130 km/h avec des réductions en cas de conditions météorologiques défavorables. L'idée d'augmenter cette limite, même de manière ponctuelle, pourrait sembler contradictoire avec les engagements environnementaux du pays. Toutefois, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour adapter les vitesses en fonction des conditions réelles pourrait également contribuer à une conduite plus efficiente et à une meilleure gestion du trafic. L'expérimentation espagnole, elle pourrait ainsi servir de modèle Pour évaluer les bénéfices et les risques d'une telle approche, elle invite à une réflexion sur l'intégration des technologies avancées dans la gestion des infrastructures routières, tout en tenant compte, bien sûr, des impératifs de sécurité et de durabilité. Alors jusque-là, en France, la tendance politique est plutôt à la baisse des limites de vitesse afin de réduire l'accidentologie et la pollution. Alors si elle peut se justifier en termes de pollution, les résultats du passage de 90 à 80 km/h sur le réseau secondaire ne sont guère probants en termes d'accidentologie. Donc ça fait débat, bien évidemment. À chaque fois qu'on touche aux limitations de vitesse en France, on sait que ça fait débat. Et là, donc en Espagne, c'est l'intelligence artificielle qui, en conditions réelles, va ajuster les limitations de vitesse. Donc voilà, encore une application. Donc là, on est peut-être un petit peu plus sur l'anecdotique, mais en tout cas, ça pose question et ça fait beaucoup parler en Espagne. Allez, deux petits articles qui vont concerner les animaux. Tiens, il y a déjà longtemps qu'on n'a pas parlé d'animaux. Et on va parler des chats et des chiens selon les chiffres de la Fédération des fabricants d'aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers. Eh bien, nous sommes près de 30% en France à partager notre vie avec un chien. Et dans plus de 80% des cas, nous les nourrissons d'aliments de type croquettes, pâtés ou aliments frais spécialement produits à cet effet. Mais il y a des chercheurs de l'université d'Édimbourg et de l'université d'Exeter au Royaume-Uni qui nous rappellent aujourd'hui que tout ça a un prix. Environ plus de 480 euros par an en moyenne, toujours selon les chiffres de la Fédération des fabricants d'aliments. Mais le prix auquel les chercheurs se sont intéressés, c'est plutôt celui pour le climat. Et leur conclusion est un peu dérangeante, en fait. Au Royaume-Uni, la production des ingrédients utilisés dans la fabrication des aliments pour chiens contribuerait à environ 1% des émissions totales des gaz à effet de serre du pays. C'est quand même pas anodin, c'est quand même pas anecdotique. Nourrir tous les chiens du monde générerait même des émissions équivalentes à plus de la moitié des gaz à effet de serre émis chaque année par la combustion de kérosène dans les avions commerciaux. Donc, on va se poser la question, est-ce qu'il faut moins d'avions dans le sol ou alors est-ce qu'on va pas nourrir les chiens? C'est une vraie question. Une autre information qui sort de cette étude publiée dans le Journal of Cleaner Production, certains aliments pour chiens ont un impact sur le climat 65 fois plus important que d'autres. Ceux qui intègrent par exemple de grandes quantités de viande de premier choix émettent beaucoup plus de dioxyde de carbone que ceux qui contiennent plutôt des morceaux nutritifs de la carcasse. De manière générale, les croquettes classiques se révèlent être celles qui ont le moindre impact sur le climat. Donc, les recherches démontrent l'ampleur et la variabilité de l'impact climatique de l'alimentation canine, c'est ce qu'expliquent les chercheurs. Pour ceux qui partagent la vie d'un chien, il est important de savoir que le choix d'aliments sans céréales, d'aliments humides ou crus, peut avoir un impact plus important que celui des croquettes classiques. L'industrie de l'alimentation animale, quant à elle, devrait veiller à ce que les morceaux de viande utilisés ne soient pas destinés à la consommation humaine et que l'étiquetage soit clair. Ces mesures contribueront à ce que nos chiens soient en bonne santé et bien nourris, tout en réduisant leur impact sur la planète. Voilà. On n'avait pas encore identifié le fait que la nourriture pour chiens avait un impact au niveau environnemental. Eh bien, c'est chose faite maintenant avec cette étude. Autre article qui concerne cette fois les abeilles. Plus de 600 millions d'années que nos ancêtres ont déjà... Je raconte n'importe quoi, je ne suis pas dans le bon article. Abeilles, pardon. Deux antennes, six pattes, cinq yeux, nous dit-on. Je ne savais pas que les abeilles avaient cinq yeux. Cinq yeux, oui, c'est pas facile à dire cinq yeux, sans liaison comme ça. On dirait cinq yeux, ça irait, mais cinq yeux, voilà. Notre cerveau compte environ 100 000 fois plus de neurones que celui de l'abeille, ok. Pourtant, l'insecte sait communiquer et coopérer avec ses autres camarades, comme nous ou presque. Là où nous avons développé un langage à partir de sons, les abeilles ont opté pour le frétillement. Tout cela a donné à une équipe de l'université de Monash en Australie une idée déconcertante, celle d'utiliser l'abeille comme un modèle d'extraterrestre, différent de nous mais doté d'une certaine intelligence, avec pour objectif de résoudre un problème épineux: comment communiquer avec des êtres qui ne nous ressemblent pas en l'absence de langage commun. Et pour mieux comprendre, on peut se rappeler que les efforts jusqu'ici déployés par l'humanité pour communiquer avec de potentielles formes de vie extraterrestres intelligentes l'ont été par le biais des mathématiques. Il y a des messages emportés par les sondes Voyager qui ont été faits. Voilà, il y a eu également le radiotélescope d'Arecibo au Porto Rico, le langage minère spécialement développé récemment par des chercheurs. Tout ça avait pour objectif de disposer d'un outil qui permettrait d'initier les extraterrestres à la biologie humaine. Alors, quel est le rapport entre les maths et les abeilles ? Eh bien, il était établi par cette équipe de recherche australienne au cours de plusieurs années de travaux quand même qu'il détaille aujourd'hui dans la revue Leonardo. Par une série d'expériences, les chercheurs ont montré la capacité des abeilles à compter, à différencier les nombres pairs des nombres impairs et à ordonner les quantités. C'est quand même assez fascinant. Ils ont même découvert que les abeilles comprennent le concept du zéro. Elles peuvent ainsi additionner ou soustraire des quantités, ce qui leur donne accès à des mathématiques plus abstraites. Finalement, les chercheurs ont prouvé que c'est un petit insecte, hein, cette abeille, au cerveau minuscule, était capable d'associer des symboles à des nombres. C'est ça qui est assez fascinant. Les abeilles ne sont pas les seules à savoir compter. Il y a quelques années, il y a des travaux publiés dans la revue Trends in Ecology qui montraient que pratiquement tous les animaux savent au moins estimer approximativement le nombre d'objets qui les entourent, que c'est même un avantage dans la lutte pour la survie en milieu hostile. Les loups, par exemple, savent combien ils doivent être pour s'attaquer à une proie ou à une autre. Entre 6 et 8 loups suffisent pour venir à bout d'un élan, mais plus de 12 loups sont nécessaires à la meute pour s'en prendre à un bison. Au regard de l'ensemble de ces études, les mathématiques semblent bien ne pas correspondre à une construction uniquement humaine. Et s'il se confirmait qu'elles ne sont ni plus ni moins que l'une des conséquences de l'intelligence, alors l'idée que les maths pourraient constituer la base d'un langage universel deviendrait une évidence, et c'est tout l'intérêt de cette étude. Et si des espèces de la Terre étrangères l'une à l'autre, autant que les hommes et les abeilles par exemple, eh bien si ces espèces sont capables de faire des mathématiques, ils devraient en être de même d'extraterrestres dotés d'un cerveau suffisamment sophistiqué. Alors reste à savoir si ces derniers auront développé des approches différentes de la nôtre, qui serait ce que les dialectes sont à une langue humaine. Donc c'est vraiment assez intéressant de voir que peut-être quelque part, les mathématiques pourraient être la base commune d'un langage universel avec des extraterrestres. Et voilà, les hommes et les abeilles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je trouve que c'est fascinant, en fait, ce que l'on peut lire dans les articles de presse scientifiques. Je vous invite, moi, à consulter régulièrement des sites internet ou des revues de vulgarisation scientifique, parce qu'il y a des choses vraiment fascinantes. Allez, on va se quitter, mais juste avant, un dernier titre, avant de se dire au revoir, sur l'antenne de Graphite. Shake, c'était The Corettes sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Ben, ça va être bientôt l'heure de nous quitter avec ce dernier article qui nous parle des systèmes de sécurité. Alors pour les voitures, on sait que c'est de plus en plus sophistiqué pour protéger les voyageurs en cas d'accident. Mais alors pour les personnes qui se déplacent à vélo, c'est assez rudimentaire parce que ça se réduit à un casque. Eh bien, il y a une firme belge qui s'appelle Aerobag qui propose un nouveau système d'airbag compact afin de protéger les cyclistes. Alors c'est pas le premier système d'airbag pour vélo qui existe, mais les concurrents impose le port d'un gilet ou d'un sac à dos et ça ne convient pas nécessairement pour les cyclistes professionnels. Et bien là, Aerobag utilise un système de tubes en polyuréthane thermoplastique qui peuvent être intégrés à des cuissards à bretelles de différentes marques, ce qui laisse le choix à l'utilisateur. Il y a des élastiques qui sont cousus à l'intérieur des bretelles et tout ça, ça suffit pour tenir le système en place. Et il y a une pochette dans le dos qui contient une cartouche de CO2 qui gonfle les tubes afin de protéger le cou, la colonne vertébrale et le torse, parce que apparemment ce sont les zones qui sont le plus souvent associées à des blessures graves. Et les tubes, on peut ensuite les replier très rapidement si le cycliste n'a rien, comme ça il peut reprendre le vélo. Faut juste changer la cartouche de CO2, nous dit-on. Alors, la pochette contient également la partie électronique, et cette partie électronique elle va surveiller la position, la vitesse, l'accélération et les mouvements. Et donc, lorsque l'algorithme va détecter un accident, eh bien, il peut déployer l'airbag en seulement 100 millisecondes, c'est-à-dire moins d'une seconde. Le système est lavable, il faut bien sûr retirer l'électronique, mais en tout cas c'est quand même lavable. Et ce système est donc conçu pour les cyclistes professionnels. La firme Aerobag a annoncé qu'il sera utilisé par l'équipe néerlandaise Picnic Post NL pendant les entraînements, voire lors de courses. Et au moins une autre équipe devrait faire une annonce à ce sujet bientôt. Alors ce système ne pèse que 500 grammes, il était conçu afin de ne pas affecter l'aérodynamisme ni la régulation thermique du porteur. Alors cet aérobag devrait coûter entre 500 et 800 euros, nous dit-on. Mais voilà, c'est donc ce nouvel airbag qui se déclenche en moins d'une seconde et qui protège les cyclistes des chutes à vélo et des autres accidents. Eh bien écoutez, c'est avec cette bonne nouvelle pour nos amis cyclistes que nous allons nous quitter. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine en direct sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite de passer une bonne journée, à bientôt, merci, au revoir.